Bonsoir à tous. Merci Michel, Maxime pour cette présentation. Merci les filles Ingrid, Alexia et Elise pour l'organisation. Merci à tous surtout d'être là. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu fais le retour sur l'ensemble du cycle, j'ai l'impression d'être la combinaison de tout, c'est-à-dire la grosse DEP au départ, enfin Charline qui est thérapeute, donc qui expérimente les trucs en tant que thérapeute, et puis Vincent qui lui transmet les outils pour composter un peu notre douleur. Avec moi, vous avez la totale, c'est-à-dire que j'ai la grosse dépression plus le compostage de douleur. Et enfin, l'action, donc on me demande de parler d'action. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir sur mon parcours. Je ne veux pas vous embêter trop longtemps là-dessus, mais ce parcours est un parcours, comment dire, atypique à l'époque, mais très typique maintenant, j'ai l'impression. À l'époque, en 2000, je rentre à Libération. Je n'ai pas du tout une formation de journaliste environnemental hein, à la base. Hein. Je suis ingénieure télécom. Je suis nourrie au bouquin de Kadic. Je pense que l'homme doit être transhumaniste. J'ai 15 ans et je suis sûre que Asimov a raison et qu'on va coloniser d'autres planètes et que ce sera super. Donc je viens de loin et quand j'arrive à Libé, je rentre dans le service sciences et technologies. Et j'ai cette chance. Enfin, aujourd'hui, je dis j'ai cette chance folle, mais j'ai cette disruption folle, surtout de rencontrer un groupe qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, qui est grenoblois et qui est un groupe très critique de la technique et qui me fait lire Enjolras, Principe responsabilité, l'anti-scientie, Jacques Ellul sur la question de la technique et de la politique et de la technique. Et là, moi, tout mon monde s'effondre. Le monde du progrès, de la technique et de l'homme, finalement, qui n'a pas besoin de Dieu pour être un Dieu, et ben finalement, là, tout s'effondre. Bon, mais je rentre dedans avec avidité. Je rentre dans les questions, à l'époque, on est au début des années 2000, souvenez-vous, la question des OGM était très présente. J'ai la chance d'être journaliste, donc malheureusement, ma névrose obsessionnelle, ça va devenir mon métier de tous les jours. Michel l'a dit, je travaillais tous les jours à la page Terre qu'on a créée en 2003 et je suis partie parce qu'après ça s'appelait Écoterre et c'était un mélange de greenwashing, de croissance verte et d'écologie à la marge. Quand on crée cette page, on embarque dans un paquebot, dans un petit voilier qui va traverser toutes les tempêtes des mauvaises nouvelles et c'est le royaume de la mauvaise nouvelle. Donc, je suis un être assez rare dans le sens où très peu de gens doivent se cogner, à part les ONG, les scientifiques et les journalistes. On est très peu nombreux, finalement, à devoir se cogner quotidiennement la mauvaise nouvelle. C'est notre métier et on est des êtres humains, enfin pour les filles, et on est des êtres humains en général, où on doit aussi continuer à vivre. En général, beaucoup de personnes arrivent à scinder les deux, quoi. Enfin, on ne met pas son boulot au petit déjeuner, le soir en rentrant, pendant les vacances. Pour les gens qui sont dans les ONG, qui sont des scientifiques, qui sont des journalistes spécialisés dans les questions environnementales, je vous assure que c'est impossible de laisser tout ce qui nous habite en dehors de notre agenda quotidien. Donc Libé, ça a été effectivement une véritable claque parce qu'une école du quotidien de la mauvaise nouvelle. Et donc, je mets au défi n'importe qui, là maintenant dans cette assemblée, d'essayer de se mettre dans cette place-là de quelqu'un qui tous les jours a des interlocuteurs, qui savent, qui alertent, qui ont peur. Mais à l'époque, dans les années 2000, on ne parlait pas des émotions comme on en parle là. On ne parlait pas de la peur, de l'impuissance, de la colère et de la tristesse. On n'en parlait pas. On disait, attention, il se passe un truc, mais il ne faut pas tout dire non plus. Il faut pouvoir mobiliser les gens. À force, évidemment, la chute totale, c'est-à-dire que la chute, qu'est-ce qui compte de plus que la question de la destinée humaine? Enfin, je veux dire, quand on se réveille le matin, quand on va boire des coups avec des copains et qu'ils vous disent, ouais, non, mais attends, oh, moi je reviens en vacances, c'était pourri, alors d'abord, t'es parti où? Comment? Oui, j'ai envie de m'acheter un 4x4, machin, truc, ou alors faut que je change d'appart, hein, je sais pas, troisième enfant, quatrième enfant. Rien n'a aucune importance et tout a hyper l'importance. C'est-à-dire que chaque acte de chaque personne que vous rencontrez devient une espèce de combat intérieur. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'aime? Est-ce que je valide? Est-ce que voilà. Donc oui, tout ça, c'est une espèce de chute à très très... c'était un toboggan, quoi. Donc peut-être pour ceux qui ont suivi la conférence de Charline, vous connaissez le processus, hein, on tombe dans la sidération, on va appliquer la courbe du deuil, on va dire, donc une forme de sidération, un déni, non, 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 tout ça n'est pas vrai, une forme de schizophrénie également, et puis la dissonance, la fameuse dissonance cognitive, c'est-à-dire on ne veut pas croire ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est tellement énorme que, et on a l'impression à l'époque, je redis, c'est important ça, dans les années, début des années 2000, c'est important de savoir que, enfin, les gens s'en foutaient, hein, quand même, globalement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour vous, les uns et les autres, si vous êtes tout neuf à l'affaire, mais dans les années 2000, on s'en fichait. Et dans les journaux, j'étais à Libération, donc un quotidien national, le service environnement était un service, c'est bon quoi, la nature, les poissons, il n'y a pas assez de morue, bon ben on fera comme à Saint-Pierre et Miquelon, on arrêtera de pêcher de la morue, il y aura plus de morue, et puis bon ben c'est bon, voilà, on va trouver une solution technique. Vous connaissez le Jacques Ellul, hein, c'est-à-dire chaque problème posé par les questions de ressources, hein, a une solution technique qui elle-même pose des problèmes techniques. Par exemple, vous avez du nitrate, enfin, vous avez plein d'engrais pour les pesticides, enfin, pour les cultures, pour que ça pousse, et vous polluez vos nappes phréatiques. Du coup, des entreprises sont là pour vous sortir des usines de dépollution des eaux par les nitrates, etc. Machin. Donc, voilà. Et ensuite, quoi? Et ensuite, quoi? Enfin, c'est toujours la course à la solution technique au problème qui n'a pas besoin d'être généré. Enfin, en fait, c'est un renversement de cerveau et de rapport au monde qu'on ne nous enseigne pas, enfin, qu'on ne nous enseignait pas dans les écoles. Je suis née en 74, donc vous voyez un peu, dans les années 80, 90, au collège, au lycée, etc. Et même à la fac ou à l'école d'ingénieur, on ne se posait absolument pas la question de l'origine des causes des problèmes. Donc, vous avez un effondrement en ce qui me concerne, et cet effondrement a été radical. C'est l'hôpital, c'est la grosse dépression. C'est 2013, et comme disait Michel, je pars de Paris et de Libération, parce que ce n'est plus possible de devoir hurler sur la table de rédaction tous les jours à 10h pendant la conférence pour dire que ce qui se passe, c'est grave, c'est beaucoup plus grave que la dernière phrase de Arnaud Montebourg. C'est beaucoup plus grave que... donc c'est... Vous hurlez dans le désert et vous êtes, vous commencez à devenir aphone tellement je suis devenue folle. En partant, je savais que je voulais tout oublier. Et on n'oublie pas, on vit avec. Mais je pensais que je pouvais tout oublier, me mettre dans un coin de verdure, penser mes plaies et les pensées, P-E-N-S et P-A-N-S. Voilà, donc ça a pris, j'arrive ici, je suis défaite, je suis seule. En plus, j'achète une maison, enfin, je loue une maison, mais le propriétaire meurt, donc j'ai l'impression que je porte la poisse. Donc du coup, j'achète la maison et je me dis, mais ça va être mon pansement et ça va être un lieu extraordinaire. Enfin, je ne sais pas à l'époque, mais ça l'est devenu et la reconstruction... elle démarre au point zéro, c'est-à-dire un peu comme, vous savez, quand les Twin Towers s'effondrent, vous avez Ground Zero, c'est là où on repense un peu autre chose. Bon, pour les États-Unis, c'est bizarre mais, comme image, mais imaginez le Ground Zero personnel, quoi. Et je trouve que dans cette aventure, il est important d'embrasser ce qui se passe, notamment les émotions basses, notamment la dépression, et de faire bien le distinguo entre l'effondrement intime, qui serait lié à une histoire personnelle, ou alors l'effondrement lié vraiment à la question de l'effondrement. C'est-à-dire que c'était marrant d'aller voir des psys et de leur dire, vous savez, j'ai quand même l'impression que il y a un problème avec le monde et moi je m'y sens pas bien. Parlez-moi de votre mère. Ouais, enfin, la terre-mère, je peux bien vous en parler, mais ma mère, ça va. Enfin, non, ça va pas. Mais enfin, c'est un autre problème. C'est pas effondriste comme truc. Alors, une fois arrivée ici, il y avait ce lieu et je continuais à être journaliste et réalisatrice. Je continue d'ailleurs toujours à être journaliste et réalisatrice. Et je me souviens, quand j'arrive ici, il me faut un peu un temps de latence, je réalise un film sur les climato-sceptiques américains. Donc, le haut du panier des super crétins, quand même. Enfin, je ne veux pas juger, hein, mais des personnes qui ne sont pas tout à fait... Enfin, on n'a pas le même rapport au monde. Et je me souviens d'aller aux États-Unis, j'étais comme un robot. Je savais ce que je savais, je devais travailler, je devais les écouter, les voir, les aimer, parce que quand on fait un film, on doit aimer tout le monde, même si à la fin, on peut faire le film d'auteur qu'on a envie de faire, mais je me suis quand même confrontée en 2015 à ces gens-là, que je voulais éviter. Je voulais oublier que ça existait, un, les problèmes, et deux, ceux qui refusaient de les rencontrer. Alors, évidemment, le film est sorti hein, sur France 5, super sympa, très drôle. Il y a Claude Allègre dedans, la crème de la crème des climato-sceptiques américains, il y a toute la mécanique de financement de la politique américaine avec les fossiles, enfin, comment est la ploutocratie américaine. Ce n'est pas une démocratie, c'est une ploutocratie, c'est-à-dire que c'est vraiment dirigé par l'argent et avec l'argent. Trump en est un super exemple d'ailleurs. Et à l'intérieur, c'est toujours Hiroshima quoi, pour moi. Et je ne sais vraiment pas où aller, ni vers quoi me tourner pour aller mieux. Soit je continue mon travail et je suis confrontée à ça, soit j'arrête et je suis confrontée au vide. Parce que quoi faire d'autre ? Ça fait déjà 10 ans à l'époque, 14 ans à l'époque que je ne fais que ça, que de faire passer l'information. C'est-à-dire que j'ai cette chance folle par rapport à beaucoup de personnes d'avoir fait de ma névrose mon travail. Que l'environnement, c'est pour moi, alerter, ça reste quand même quelque chose de l'ordre de la déconstruction du vieux monde. Je ne fais pas partie vraiment des journalistes qui aiment reporters d'espoir ou je ne suis pas trop sur le journalisme positif. Je veux qu'on déconstruise, qu'on déconstruise, qu'on déconstruise. Mais jusqu'au bout. Et donc, il faut aller les mains dans le cambouis, la tête dans l'horreur. J'ai arpenté Tchernobyl, et Fukushima, Hiroshima. Bon, pas à l'époque, mais j'aime quand ça se passe mal parce que c'est là qu'on a la preuve. Enfin, je crois vachement à la pédagogie de la catastrophe. Donc, la pédagogie de la catastrophe, ça veut dire aller regarder la catastrophe dans le blanc des yeux. Et elle est sous différentes formes depuis tellement longtemps que quand on a envie de faire ça, ben, c'est un boulevard. Il a bien fallu trouver une solution. Et donc, je sais que l'atelier de Vincent, pour le coup, pour ceux qui l'ont suivi, ou même la conférence précédente, c'est complètement ça, les solutions. C'est qu'à un moment donné, il faut travailler l'acceptation de ce qui est et dissocier ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, il y a toujours cette phrase de Marc Aurèle quoi, qui est de distinguer, de faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Avoir le courage d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, la force de changer ce qu'on peut changer, mais surtout l'intelligence de faire le distinguo entre les deux. Et ce n'est pas sur nos petites épaules qu'on va porter les questions d'effondrement, en tout cas leurs solutions. Donc les outils de travail qui relie, de nature, de reliance à la nature et de communication non violente ont été des étapes fondamentales dans ma vie qui ne datent pas de si longtemps que ça, qui datent de 2017, 2018, 2019. J'ai eu l'impression que mes émotions basses, colère, impuissance, tristesse, Peur. D'ailleurs, j'ai pas d'enfant parce que j'avais peur, en fait, ou je manquais de courage, mais surtout parce que j'ai pas du tout envie d'avoir la responsabilité d'un être dans les temps qui viennent. Donc, ces émotions basses, enfin, on me les prenait, on me proposait de les embrasser, qu'elles me traversent totalement, mais qu'elles me traversent littéralement. Donc, ce sont des pleurs incessants, ce sont des moments de panique de dingue, c'est le recours à beaucoup de vin bio. Du pinot noir, parce que je suis dans Lyon, voilà. C'est aussi beaucoup de rire, beaucoup de rire, mais alors le rire sardonique, le rire, voilà, ben, attention, enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais donc, il y a des outils, et je ne savais pas qu'il y avait ces outils, et qu'il y avait une façon, en fait, de rentrer en contact avec nos émotions, qui nous permettait, du coup, de repartir sur un trampoline après. Sur la question de l'humour, je voudrais vous montrer. Alors attendez, il faut que je partage mon écran. Ok. Je voudrais vous montrer en 2000. Attendez, je ne partage pas mon écran, je vais quand même vous parler avant. En 2010-2011, je suis encore à Libération. J'ai un comparse qui s'appelle Éric Lablanche et on n'arrête pas de rire. On n'arrête pas de rire du pire. Donc, bon, ça nous permet de mettre l'horreur à distance, ce qu'on sait à distance, parfois, au biais d'une blague, par le travers d'une blague. Et puis, on crée ce personnage un peu dingue qui s'appelle Bridget Kyoto. Alors, Bridget comme Bridget Jones, pour les plus jeunes d'entre nous, ouais, enfin, pour les moyens d'entre nous, parce que Bridget Jones, je crois que c'est dans les années 2000. Et puis, Bridget Kyoto, parce que c'est la veuve du protocole de Kyoto, qui, comme chacun sait, est morte de sa belle mort du moment où on ne l'a jamais respectée, quoi. Et ce personnage, Ostou, c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Et la première vidéo s'appelle, étrangement, ça résonne avec le titre du livre, je vous laisse regarder. Vous entendez? Dites-nous si vous entendez ou pas. Faites-moi des signes si c'est OK. OK?
Bonjour. Les écologistes le savent, l'écologie, ça rend dépressif, c'est vrai. La biodiversité, l'énergie, l'eau douce. Le climat, c'est vraiment la merde. Et en plus, on passe pour des cons. Alors, comment réussir son malheur tout en sauvant la planète? Bon, d'un côté, il y a les antidépresseurs naturels comme le millepertuis, il faut les récolter soi-même et tout. Bon. De l'autre côté, on a les groupes de parole. Vous pouvez essayer les groupes de parole, parler, tout ça. Bon. Moi, la solution que je préconise, c'est vin bio, parce que de toute façon, ce serait simple, au bout d'une bouteille, sauper la planète et tout, on n'a plus rien à branler, on s'en fout, on va tous mourir en plus, alors franchement, attends, barre des coups. Et puis de toute façon, comme on dit chez les Kennedy, on ne va pas se laisser abattre. Merci.
Alors, comment je reviens vers vous? Je suis nulle en truc. Je vais faire
Mais
ça.
arrêtez le partage.
Voilà, j'arrête le partage. Mais il faut que je revienne dans Zoom. Vous allez voir tout mon écran et tout. Bon,
Non, si
attends.
tu arrêtes le partage en haut ou
Arrête
en
le
bas,
partage,
normalement.
arrête le partage là.
Voilà.
Voilà, merci. Alors, normalement, il y a des rires dans la salle. Normalement, ça applaudit. Normalement, bon, là, c'est bizarre. C'est vraiment, c'est Zoom, hein. Mais voilà, c'est par le rire sardonique qu'il me semble qu'on s'en est sorti, Éric Lablanche et moi-même, parce que Bridget a eu une vie virtuelle fort sympathique, à peu près 90 vidéos, donc la minute nécessaire de Bridget Kyoto, en hommage bien sûr à Pierre Desproges, sans lequel l'humour ne serait rien. Et donc, on a pu, comment dire, composter par le rire. Donc, ça ne suffisait pas intérieurement, ça ne suffisait pas. 2011, hein. Et à l'époque, en plus, on parle de groupe de parole. Il n'y a pas en 2011 de groupe de parole dédié à l'éco-anxiété. Il y en a désormais. On a des cafés collabs, on a Bon, on a beaucoup, beaucoup de choses, mais à l'époque, on n'a rien, on est seul, on est seul. Vous êtes dans les COP avec les ONG, tout le monde pleure, tout le monde se défonce, tout le monde essaye de dire 1,5 degré. Mais enfin, en même temps, on sait très bien qu'on va vers les 5, 6 degrés et on est obligé d'encaisser ce truc, quoi. Enfin, et on ne peut pas, en plus, mobiliser les gens sur la peur et l'angoisse. Donc, elles sont, on cherche comme des malades. Le rire a été un truc salvateur en ce qui me concerne et je pense que le rire est une forme d'action. Je reviens donc à Joigny quelques années plus tard et je me suis dit, tu as fait ta dépression, tu as fait ta métanoïa, tu as retourné ton regard sur le monde, tu es allé faire des stages de communication non violente, des ateliers de travail qui relient, tu travailles sur les cercles de gratitude, tu te mets en connexion avec la nature. Bref, sur le cahier des devoirs, j'ai à peu près coché toutes les cases des trucs qu'il faut faire. Il manque quand même quelque chose. C'est-à-dire, quand est-ce que je me mets en marche pour œuvrer et faire ma petite part de colibri? Mais en même temps, je me dis, mais attends, Laure, t'es journaliste, ça fait 15 ans que tu alertes sur le problème. Est-ce que tu ne crois pas que c'est suffisant? Non, Laure, parce que tu es en train de, tu ne fais que déconstruire le vieux monde. Tu n'es pas en train de créer le monde d'après. Tu n'es pas en train de donner envie au monde d'après. Et c'est là que c'est super intéressant, je trouve, à mon avis, de trouver, d'avoir un territoire sur lequel on peut, à partir duquel on peut se projeter dans ce fameux futur. Quand je suis arrivée dans Lyon, je n'avais aucune attache dans Lyon. Ma famille vient de Savoie ou d'Isère. On est plus proche de la Suisse que de Lyon normalement. Lyon, c'est Émile Louis. Enfin, ça donne pas envie. Les reliefs sont bas. C'est pas génial. J'ai aucune attache. Je vois bien que au niveau sociotype, c'est intéressant, mais on est plus chez des personnes. On n'a pas du tout le même niveau de culture, le même statut, le même rapport au monde. Enfin, voilà. Mais j'ai trouvé du coup que c'était un territoire assez vierge sur les questions du futur. Et je me suis dit, mais je ne servirai à rien si je ne fais que me reposer et embrasser des arbres en étant là. Faire des films, c'est bien, c'est mon travail. Mais dans ma vie, dans mon tiers lieu de vie, c'est-à-dire la vie associative, la vie qui nous engage, la vie militante, la vie qui fait qu'on a envie de faire mille et une choses, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, le passage à l'action, il s'est passé avec cette maison. On s'est toutes les deux sauvé la mise, hein, sauvé la vie. Et on s'est toutes les deux aéré et ventilé et fait du bien. Vous voyez, donc du coup, le passage à l'action, des fois, ça dépend de choses qui sont indicibles. Il n'y a pas de recette. Quand j'arrive ici et que je veux louer le rez-de-chaussée de cette maison, 3 jours plus tard, après la signature du bail, le propriétaire meurt. Il meurt. Moi, je suis bien élevée, j'envoie mes condoléances. Et sa veuve me répond, je reprendrai la tâche avec vous. Je déteste cette maison. 6 mois plus tard, elle me dit... vous la prenez, vous la prenez pas? Bah oui, mais vous en voulez combien? En gros, c'était le prix, je sais pas moi, d'un studio à Paris, 100 000 euros. Vous avez une maison de 200 mètres carrés dans Lyon. C'est comme, je sais pas comment vous dire, elle est aérée, elle est belle, elle est vieille, elle est à l'oubli. Moi, je suis dévastée, je sais pas ce que je dois faire, et j'ai l'impression d'avoir trouvé un nid. Donc l'action, elle démarre aussi avec des choses comme ça. Du nid, vous avez les amis, vous avez les liens, vous avez le marché, vous avez ce qu'on appelle des espèces de rendez-vous, de protocoles. C'est très important le protocole pour se soigner. Et le lieu était assez vierge de toute initiative, d'aucune sorte en matière d'écologie. Et je me suis dit, mais c'est un terrain de jeu extraordinaire. Non pas que je sois démiurge, mais j'ai beaucoup été geek quand j'étais jeune et je jouais pas mal à SimCity, quand j'étais jeune. Et moi, enfin, je sais pas, au-delà de 10 000 habitants, je pétais un câble. Fallait gérer les gratte-ciel, les autoroutes et tout. Et ben là, c'est une ville de 10 000 habitants. Je me dis, putain, c'est génial. J'ai atterri, comme dirait Bruno Latour, dans une ville de 10 000 habitants. C'est exactement la taille qui me semble sensible, parce que l'action pour moi passe dans une espèce d'appropriation du territoire, de spatialisation du territoire. Autant j'ai traité les enjeux globaux très longtemps dans Libération pour les mettre dans un petit article, lu par pas trop de personnes apparemment, mais autant là, je pouvais amener les enjeux globaux dans le territoire et spatialiser le territoire. Pour moi, je peux spatialiser maintenant 150 km², je crois, ou 200 km², c'est le maximum de ma pensée, enfin de ma façon de m'approprier un lieu, pouvoir connaître à peu près qui sont les acteurs. Vous voyez ce que c'est un peu de spatialiser un territoire et de connaître un peu tous les acteurs et de se dire, tiens, avec un tel, je peux faire ça, avec un tel, ça est possible, ce qui se fait là-bas est déjà en cours, donc on va pas faire la même chose, ou alors on coopère. Enfin, c'est super intéressant, cette histoire de spatialisation de territoire. Et d'ailleurs, je vous conseillerais bien un livre qui est L'écologie des territoires de Thierry Paco, mais on parlera bibliographie à la fin. Connaître son territoire, le diagnostiquer, et puis savoir où on est aligné, quoi. C'est-à-dire, moi, si c'était la maison pendant un certain temps, bah, c'était la réparer, donc il a bien fallu que je me cogne ce que c'est que une isolation écologique, parler à des ouvriers, en trouver des artisans qui soient écolos, mais en fait il n'y en a pas, donc former les artisans à leur dire, attendez, moi dans ma maison je ne veux pas de la laine de verre, je veux de la boîte de cellulose, venez, on travaille ensemble, on va trouver le truc, créer des filières, enfin, je ne sais pas, tout est un jeu. Je me suis retrouvée dans un peu SimCity Mario Bros, éco version bio écolo de Lyon, parce qu'en gros, on peut aussi inviter tout le monde à tout instant à passer le cap. Et l'action, elle est finalement pas tant nous qui agissons, que aussi parfois nous qui incitons à agir. Ça, c'est aussi assez merveilleux. Encore faut-il avoir des gens réceptifs en face, et encore faut-il pouvoir les trouver et garder son calme si on ne les trouve pas. On a une chance, j'ai eu une chance après les climato-sceptiques, c'est que Cyril Dion, après le succès de Demain, me demande de l'aider à co-réaliser Après-demain. Et je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont vu Après-demain, mais je suis dans la posture de l'effondriste collapsologue qui n'est jamais contente. Enfin, ça ne va pas. On ne va pas aller voir Emmanuel Faber de Danone. Non, ce n'est pas parce qu'il y a trois mecs qui se mettent en branle dans une ville de Vienne, enfin, à Vienne, dans l'Isère, ou dans l'un, que le monde change, etc. Je suis la schrogneugneux, quoi, la fille qui... je suis dans le reliquat de mon éco-dépression, c'est-à-dire rien n'est à la hauteur, rien n'est jamais assez, nous n'y parviendrons pas, il est trop tard depuis tellement longtemps. Est-ce qu'on l'a dit, ça? Est-ce qu'on l'a intégré, ça? Et Cyril, lui, dans ce désir de film, a le désir de mobiliser les gens à l'inverse et de dire... Mais il faut qu'on change de récit, et c'est là que naît cette histoire de changement de récit. Il faut qu'on raconte de nouvelles histoires, qu'on donne envie. Et moi, je lui dis tout le temps, mais on va pas se raconter d'histoires en racontant des histoires. C'est foutu, merde, est-ce qu'on peut le dire? Bref, vous voyez un peu le combat qui est résiduel en permanence. Savoir ce que l'on sait, croire en ce que l'on sait, et tout de même, tout mettre dans la balance de ce qu'on veut faire. C'est une espèce de jeu d'équilibriste absolument permanent. Et je le redis, hein, je suis une fan de déconstruire le vieux monde pour que sur les cendres de ce vieux monde puisse naître le prochain monde. Mais je ne savais pas qu'il fallait aussi mettre la main à la pâte dans le faire. On a une chance folle dans notre malchance actuelle, c'est qu'on a un plan de relance européen, français, je ne sais pas comment c'est chez les Suisses ou chez les Belges, mais on a un plan de relance. Et actuellement, il y a des tuyaux d'argent pour la transition écologique. Donc, si vous êtes où que ce soit et que vous vous êtes rassemblé auprès d'un collectif, que vous connaissez votre territoire, que vous êtes déjà engagé, eh ben, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à oser aller demander un peu d'argent pour subventionner notre transition. On a des appels à manifestation d'intérêt en France, notamment pour la fabrique des territoires, qui impulse beaucoup la création de tiers-lieux dans des zones comme ici. Nous, on va postuler là. Ça propose 50 000 euros par an pendant 3 ans. Ça permet de connecter, c'est-à-dire de professionnaliser le bénévolat, finalement, de créer des postes de personnes qui coordonnent les actions de tous les territoires de toutes les actions dont je vous ai parlé précédemment. Les appels à manifestation d'intérêt sur la biodiversité communale. On a aujourd'hui tout cet argent et toute cette volonté de personnes qui n'étaient pas là il y a 10 ans ou 20 ans, mais tout le monde débarque. Et dans ça, je me rends compte qu'il nous manque encore un outil, encore 2 outils même, ou 3 ou 4. C'est comment on bosse ensemble, sans s'engueuler comme avant, sans être dans des systèmes pyramidaux, avec des hiérarchies, des systèmes de compétition interne qui rejaillissent sur le groupe. Et là, je découvre le bonheur de la gouvernance partagée, à savoir que pour le passage à l'action, avoir une idée, c'est une chose. Un projet, vouloir le ficeler, c'est une autre chose. Moi, j'ai un peu une petite Benita Mussolini en moi, ce qui veut dire qu'en gros, je pense que ça irait beaucoup plus vite si j'étais toute seule et si c'était moi qui faisais tout. Mais en réalité, on va beaucoup plus loin quand on est plusieurs. Ça, c'est la fameuse maxime. Et il y a des outils également pour qu'on travaille différemment. Et j'ai l'impression que une fois qu'on a mis le pied à l'étrier de l'action, il y a un truc extraordinaire c'est apprendre le nouveau vocabulaire donc de la communication non violente et de la fameuse gouvernance partagée pour mettre en place l'intelligence collective. Tout ça, c'est de la nouvelle langue, ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire qu'en gros, quand on gère mieux nos émotions et qu'on travaille mieux ensemble, au mieux des intérêts du collectif et du projet. Donc, nous n'allons pas nous arrêter d'apprendre. Nous sommes au début d'un apprentissage. Il y a à la fois les territoires qu'on veut transitionner, qu'on veut faire passer à plus de résilience, plus d'autonomie. Moi, je crois plus aux biorégions qu'aux pays jacobins, bien sûr. Mais chez les Suisses, vous êtes carrément en avance par rapport à ça. Et nous, on est très, très en retard. Et ça va être très, très dur de désincruster toutes nos croyances par rapport à ce qu'est un territoire en France. L'intelligence collective au service d'une politique d'un vrai système démocratique, au sens où tout le monde parle dans la police, tout le monde va dans la police, dans la cité, pour travailler ensemble et œuvrer un projet commun, ça c'est un truc à apprendre. Donc voilà, on a que des trucs à apprendre en fait.
Merci Laure.
Je m'arrête parce qu'il est 21h et que je vois que le timing était un peu sur ça, mais sinon, j'attends vos questions avec impatience pour pouvoir développer certains points.
Merci beaucoup. Alors effectivement, on avait commencé avec un peu de retard, mais c'est très bien. On est dans le timing. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour tes riches apports. On aura encore le temps d'échanger justement et approfondir certains points pendant le temps de questions-réponses. Merci pour ce témoignage profond qui résonne peut-être aussi avec certaines personnes qui sont là et qui écoutent ce soir. C'est très, très intense. Il y a beaucoup de d'informations, de sincérité aussi. Alors, pour ce petit moment, donc, comme on l'avait proposé au début, c'est de vous envoyer en sous-groupe aléatoire de 3 personnes où vous pourrez justement échanger à partir de vos ressentis, comment ça résonne en vous, tout ce que vous avez entendu, ce que Laure a partagé? Qu'est-ce qui est vivant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous interrogent, des choses qui résonnent? C'est vraiment un petit moment, vraiment, comme on disait, partir de vos ressentis pour échanger. Et puis ensuite, on reviendra en plénière pour prendre les questions. Donc peut-être que aussi dans ce sous-groupe, des questions vont émerger de vos réflexions, de vos échanges. Donc on va se retrouver, on va vous envoyer en sous-groupe environ 15 minutes pour se retrouver ensuite tous ensemble où vous pourrez écrire vos questions dans le chat. Voilà, et puis peut-être aussi une petite info, c'est que vous serez autonome et souverain dans ce petit groupe, donc veillez à ce que chacun, chacune puisse aussi avoir la parole et que cette parole soit partagée entre vous.
Je vais préciser un truc juste avant que tout le monde parle, qu'il y a une expérience qui nous est arrivée ici, qui est aussi conne, mais vraiment c'est très con. Hein. C'est l'achat d'un verger. L'achat d'un verger, ici, à Joigny, 5 000 euros un verger, donc 15 arbres fruitiers, pas visités ni taillés depuis une dizaine d'années. À partir d'un verger, d'abord, vous avez la reconnexion aux saisons. C'est bête, mais c'est vraiment crasse. C'est tellement bête, ce que je vous dis. En même temps, dans nos villes, dans nos vies urbaines et citadines, nous passons notre temps à vivre de boîte en boîte. Et même si on a toujours le nez sur la météo, on n'est jamais dehors, quoi, en fait, en gros. Hein. On est au boulot, on est à la maison, on est dans le métro, on est... voilà, bon, pour ceux qui ont la chance d'être en nature, au plus proche de la nature, évidemment, ce n'est pas du tout ça. Mais acheter un verger, ça a été... J'avais jamais regardé des arbres comme ça. Et puis ce verger, tout de suite, on l'a acheté à deux, mais tout de suite, il a eu un caractère collectif, on l'appelle le verger de la Renaissance. Il est coincé entre un cimetière, des vignes traitées et du colza, donc des grandes cultures. Donc c'est un lieu aussi de résistance. Et derrière, c'est un lieu de subsistance. C'est-à-dire que cette année, c'était une année à fruits de dingue, 300 kilos de pommes, 30 kilos de pêche, 40 kilos de poire, des prunes, des mirabelles, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On conserve. Enfin, soit on mange des fruits pendant 3 mois à 15, soit on partage et on travaille ensemble. Donc, vous avez tout de suite la notion de coopération, d'entraide, de partage des ressources. Qui a le stérilisateur? Qui a trouvé les bocaux? Qui a un verger? Avant, mon grand-père, il avait un verger, il ne le partageait pas, il s'en servait, il faisait ses bocaux dans sa cave, etc., etc. Aujourd'hui, le verger est un objet et un lieu, un territoire politique qui rassemble à peu près tous les passages à l'action dont on peut rêver aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est le micro-exemple tout bête qui permet de mettre en route beaucoup de personnes, avec des compotes de pommes, quoi, on peut changer le monde. Enfin, c'est nul, mais c'est super, c'est super bon en plus. Voilà. Donc, je voulais vous donner cet exemple-là parce que c'est valable. On ne sait pas ce que l'action qu'on produit va produire finalement. Voilà. Acheter le verger, j'aurais jamais cru que ça aurait produit cette espèce de famille de compotiers, quoi. Et les confitures, je ne vous raconte pas. Donc, excuse-moi, Alexia, je voulais reprendre là-dessus. Effectivement, je voulais parler du verger, parce que j'en parle dans le bouquin. Le verger, là, en ce moment, c'est la folie, c'est re les fleurs, re le cycle. Et je me dis, mais à chaque... en plus, c'est mon rapport au temps. C'est-à-dire, combien de fois je vais le voir fleurir avant de décéder? 10 fois? 15 fois? 30 fois? C'est la dernière fois cette année? Je m'en fous. Ce que je sais, c'est que je le vois fleurir. Et qu'au moment où je le vois fleurir, quelque chose fleurit en moi.
Oh bah merci beaucoup. Merci pour ce complément. Ça donne en tout cas envie. Je pense que tout le monde a envie d'avoir un verger maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas. Très bien. Donc, est-ce que Ingrid, ça joue pour les sous-groupes?
Oui. C'est tout bon. Alors, je vais vous envoyer dans des sous-groupes de 2 ou 3 et puis vous pouvez simplement accepter l'invitation que vous allez recevoir.
Moi, je vais nulle part.
Alors, nous, normalement, je ne vous ai pas mis dans des groupes, mais si vous voulez rejoindre des groupes, c'est possible. Tu vas aller dans un groupe?
Non, je... Oui, enfin, je... c'est... Ah, bah si, je suis invitée dans un groupe.
Alors, tu peux accepter, simplement.
Élise
et Michel et Alexa, vous avez reçu aussi des invitations? Élise, on ne t'entend pas?
Oui, j'ai reçu, oui. Oui,
OK, bah, comme vous voulez, si vous voulez rejoindre un groupe ou pas, c'est libre à vous.
Moi, je m'étais juste dit, est-ce qu'il y avait des trucs techniques à savoir? Enfin, c'est pour ça que je suis restée, mais je ne suis pas allée dans un groupe.
Il y a Christian qui... Christian, tu nous entends?
Coucou, Christian.
Salut, Élise. Bonjour, Michel.
Hello. Tu as eu une invitation pour un groupe?
Mais où est-ce qu'elles sont, ces invitations?
Elles apparaissent sur ton écran.
Alors, j'ai
pas... Si tu cliques en bas sur « Diviser en groupe », elle va réapparaître, à mon avis, non?
Non, je pense que divisé en groupe, il n'y a que nous qui avons accès, Michel.
Oui, il n'y a que moi. Alors,
mais Ingrid,
sinon, je peux t'envoyer manuellement dans un groupe.
Il y a des groupes de deux.
Il y a salle 3, Soraya, qui est toute seule. Hein.
Oui.
Ah, OK. Oui, effectivement.
Et puis salle 6 aussi, Laure. Hein.
Oui.
En fait, il y a plusieurs personnes qui sont seules. Ouais.
Non, moi, je vais rejoindre pour venir toute seule. Allez.
Alors, Christian.
J'y vais.
Bah, de toute façon, Michel, il y a plusieurs. Il y a 4-5 personnes, je vois, qui sont toutes seules. On peut les redéplacer. Hein.
Mais moi, je peux le faire aussi, en fait.
Parce que moi,
je
n'arrive pas. Tu arrives à.
Ouais, moi, je dois faire ça.
Moi, j'arrive.
Et tu l'as fait où, du coup? Parce que moi, je ne vois pas.
Mais parce que tu n'as pas les droits.
Sur la personne ou tu le fais dans les groupes?
Bah, quand tu as le
pas les personnes qui ne sont pas dans les groupes, dans le listing. Tu as fait comment?
Qui c'est qui a envoyé
Moi, j'ai les droits. Ouais, moi, j'ai les droits.
Tu as fait comment?
Mais je n'ai pas envoyé Christian.
Ah, bah, il est parti tout seul.
Bah, moi, j'ai les droits aussi, mais je ne l'ai pas envoyé non plus.
Mais tu fais comment?
En fait, si je vais dans... J'ai fait diviser en groupe, puis je suis dedans, puis j'ai des droits pour ça.
Ouais, parce que... Mais moi, le problème, c'est que je vois tous les groupes.
Mais tu vois, t'as pas les trucs déplacés dedans.
Mais je vois pas les personnes qui sont pas... Si, je peux déplacer des gens qui sont déjà dedans, d'un groupe à l'autre. Mais je vois pas comment ajouter des gens dans des salles déjà créées, en fait. C'est ça, mon problème.
Ouais, moi, c'est pareil. Genre, nous, je ne nous vois pas non plus.
Il y a Soraya qui est toute seule.
Elle est où? Quel groupe?
Élise, tu veux aller avec elle?
Ah ouais, bah attends, mais je l'envoie dans
parce
un autre
groupe. Parce que t'étais dans ce groupe-là. Ouais,
mais je l'envoie
dans faire
un...
ça
ouais.
Ah oui, ça je peux faire aussi. Bah tu c'est peux bon, le faire, je... ouais. Il y a la salle 7 où ils sont que deux.
Ouais, je l'ai envoyé dans la salle.
Ou non, il y a 8, il n'y a qu'une personne.
Ah ben alors attends, je vais le mettre dans une autre salle.
Ah oui, il y a Windows 10.
Je le mets dans la
je
salle
crois que
9.
C'est la seule qui du coup est toute seule, non? Oui, c'est bon. Ouais, et dans les bon. Personnes qui sont restées, ben, je sais que certains ne voulaient pas rejoindre de groupe. Et je pense qu'ils nous diraient s'ils voulaient rejoindre un groupe.
Oui, je pense.
Ouais, je crois que c'est bon. Cette fois, tout le monde, il y a au moins 2 personnes par salle, de ce que je vois.
Oui, c'est bon.
OK.
Mais alors ça, je ne comprends pas comment je remets... Enfin, je pensais en allant sur les participants que je pouvais les envoyer du coup dans un autre groupe. Mais en fait, non.
Là, ouais, combien de personnes qui sont? Il y a 9 personnes, donc on est moins 3. Il y a 6 personnes qui sont dans aucun groupe.
Ouais, mais là, eux, ils ont reçu des invitations normalement, donc c'est qu'ils n'ont pas accepté, ça c'est bon. Mais c'est juste pour une autre fois, si on doit le faire, je ne comprends pas où je peux le faire. Parce que quand je vais dans la personne, dans la liste des participants, je ne peux pas mettre rejoindre un groupe ou je ne sais pas quoi.
Même si tu vas sur la photo, les trois petits points, tu peux pas les, tu peux les mettre dans la salle d'attente, mais pas dans un groupe.
Non, justement. Et puis, dans diviser en groupe, comme je disais, je vois que ceux qui sont déjà dans des salles.
Ouais, j'avoue, je ne sais pas comment faire. Moi, pareil.
Mais normalement, à mon avis, ils ont dû tous recevoir une invitation.
Oui, je pense aussi.
Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui, du coup, n'ont pas vu le message ou...
Mais ils sont peut-être déconnectés, je ne sais pas.
Je ne sais pas si tu as vu, Alice, qu'il y a déjà une question de Nicole Graber
dans le vu. Chat. Ouais, je l'ai prise de côté.
Ouais.
C'est bon, je l'ai vu.
Ah, il y a Windows 10 qui est revenu.
Sinon, au niveau timing, on est pas mal parce que finalement, elle a parlé moins que 45 minutes.
C'est vrai que l'intro, on a fait un peu plus long que prévu.
Ouais, je me suis fait un peu la remarque intérieure de me dire que c'est short, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, plus l'ancrage. Plus...
Ouais, c'est vrai qu'on devrait compter.
Je pense qu'on devrait compter de base. Je sais pas, on me semble qu'on a commencé à 20, entre 20 et 25.
Ouais. À 25, ouais.
C'est ça, hein. Donc je pense que ça vaut la peine sur le planning de base de mettre plus parce que...
Ouais, on avait 15 minutes de retard. Après, on a commencé... 10 minutes
en tout cas de plus, ouais.
On a commencé à 7 et 8.
Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait compter 5 minutes de battement au début.
Ouais.
Et puis après, ajouter 10 minutes pour l'intro. C'est
ça, je pense aussi, ouais. Ça suffirait, exact.
Ouais. Moi, je suis quand même étonnée parce qu'il y avait 180 inscrits, puis en fait, il n'y avait que 100 personnes.
Ouais, j'ai vu ça aussi.
Puis même là, à la fin, c'était plutôt dans les 70-80.
Après, les gens, ils partent souvent à la fin de la présentation de base, donc c'est peut-être ça.
Oui, mais il y a eu au max 109.
Ouais, c'est ça. Moi, j'avais dit un peu plus de 100. OK.
C'est-à-dire qu'il y a quand même 70 personnes qui sont inscrites et qui ne sont pas venues. C'est énorme.
C'est beaucoup, ouais.
C'est souvent comme ça, honnêtement. L'événement de lancement du One Planet Lab, il y avait 300 inscrits et il y a 200 personnes qui se sont connectées.
Ah ouais, donc c'est un peu des ratios...
C'est un peu classique pour les webinaires parce que les gens, ils se disent « je m'inscris » puis on verra sur le moment.
Mm-hmm. À fond.
Bonjour, madame Leque.
Bonjour. Vous venez de nous rejoindre ou vous êtes revenu d'un groupe? Si elle nous voit, elle n'est pas sûre.
Elle nous entend. Est-ce que vous nous entendez? Non. Pas pire.
Bon. Ok, bref, quand ils reviennent. Là, tu les as envoyés à quelle heure, du coup? On en est à quoi dans le.
C'était S5, je pense.
Okay.
Donc encore 5 minutes.
Yep. Ouais. Bah, de toute façon, les questions, il n'y en a pas eu beaucoup avant, donc on verra s'il y en a plus. Mais du coup, autant leur laisser le temps d'échanger du moment où la partie question, c'est toujours là qu'on peut un peu, tu vois.
Oui.
Raccourcir si.
Ouais, ouais. Non, moi, je pense que les gens ils vont poser des questions en revenant, je ne me fais pas de soucis.
Ouais.
Bon, mais du coup, je vous abandonne 2 minutes et comme ça, je serai au taquet pour les questions. J'arrive.
Ok.
Pas de soucis. Toi, ça va avec la technique, Ingrid?
Ouais. C'est tout bon. Je vais leur envoyer un message dans. On a dit quoi? Vers S5. Ok. On les rappelle quoi dans 4 minutes?
Parce qu'on ne t'a pas mis de timing quand tu as créé le groupe.
Non, mais par contre, je peux leur diffuser un message pour dire encore 3 minutes, tu vois, par exemple.
Ouais, bah je pense que là, ça fait à peu près 10 minutes.
Ouais.
On peut dans
5.
Ouais.
Parce que du coup, ça fera 10 minutes de retard, mais c'est. Comme les questions, on avait prévu 45 minutes, ça va. Je leur ai écrit maintenant pour dire encore 5 minutes. Puis on reprend aux 20. Thank you.
Moi, je me demandais pour l'atelier de demain, est-ce qu'il y a besoin de refaire toute cette intro que Michel a fait? Parce que la plupart des gens sont quand même, ont quand même été là ce soir. Je me dis, est-ce que ce n'est pas plus important de faire, revenir un peu plus sur la conférence, quelques mots, plutôt que de tout reparcourir le cycle? Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, je pense que ce n'est pas nécessaire ou plus court. À mon avis, il y a peut-être une personne qui m'a dit « Est-ce que je peux faire l'atelier sans avoir suivi la conférence ?» Il y a une personne qui m'a demandé, j'ai dit oui. Mais c'est clair que la plupart, ils auront suivi la conférence. Donc, ça peut être très court.
En fait, je vais peut-être recontextualiser, mais beaucoup plus court que ce qu'a fait Michel.
Ouais.
Ah, tu vois, moi, j'ai une personne qui est apparue, s'il y avait un participant non affecté.
Ah ouais, moi aussi.
Il vient d'arriver, tu vois, pour les nouveaux. Donc les autres,
Pauline, là. Refusé.
Ouais. Du coup, je ne sais pas où elle est. Pauline, ben tu m'entends-tu?
Elle est ici dans notre salle.
Ah voilà, ok. Peut-être qu'on peut... Pauline, est-ce que tu nous entends?
Oui.
Ah, bonjour Pauline.
Désolée, j'ai travaillé, je ne pouvais pas venir plus tôt.
Ok, pas de souci. Écoute, je pense que ça ne vaut pas la peine quand on vous est dans un groupe maintenant parce que
on va dans les... Dans 3 minutes, on va les reprendre. Ouais.
On va reprendre dans 3 minutes. On a envoyé tous les participants dans des sous-groupes pour juste discuter un petit peu de ce que Laure avait déjà dit. Et il va y avoir toute la partie questions-réponses. Donc, je pense qu'elle va encore continuer à parler après. Si c'est OK pour toi d'attendre 3 minutes que tout le monde revienne. C'est...
Pas de souci. Je vais chercher comment brancher ma caméra. Voilà, je pense. Voilà.
Super, voilà. Bienvenue, bonjour.
Et vous êtes donc Ingrid, Alexia, Lina, Chantal, Caroline, Déborah.
Alors Ingrid, Alexia et moi, on est les 3 organisatrices de la conférence. Et puis tous les autres sont dans les sous-groupes. Il y a une septantaine de personnes dans les sous-groupes, en gros.
Ah, d'accord.
On va revenir tout à l'heure.
Carrément, oui.
Y compris Laure qui est en train de discuter dans un sous-groupe.
Ah, d'accord. Et on discute de quoi dans les sous-groupes?
C'est un petit moment, en fait. Donc, Laure Noala, elle a fait sa présentation, elle a parlé, c'était un espèce de témoignage sur son parcours par rapport à l'éco-anxiété. Et puis, après, elle a parlé quoi, 40 minutes, je pense, à peu près. Puis l'idée, c'était que les gens prennent le temps d'échanger sur leurs ressentis, comment ils ont trouvé ce qui a été dit, éventuellement réfléchir à des questions. Et tout le monde va revenir dans 2 minutes et on va avoir un moment où les gens vont pouvoir poser des questions via le chat auquel Laure pourra répondre. Voilà, oui, en gros.
J'essaie de m'insérer comme je peux.
Très bien, super, pas de problème. Bienvenue.
Oui, et vous êtes localisés où?
Nous, on est toutes à peu près sur Lausanne ou dans le coin. Et vous?
Ah, oui. Moi, je suis en Belgique.
Ah.
Oui, pas loin de Lille, en France, à 50 km de Lille.
Ok, super. Et la météo aujourd'hui, ça allait? Il ne faisait pas trop moche?
Oh, la pluie, mais bon, il en faut. Hein. Voilà, de temps en temps, il faut un peu de pluie. C'est pas des
fois. Comment vous avez entendu parler du coup de cette conférence?
Oh, moi, je fais partie d'un groupe de transition, du mouvement de la transition en Belgique. Et donc, il y a un groupe de transition intérieure.
Avec Geoffrey Dumonceau.
Voilà. Il n'est pas là, lui, aujourd'hui?
Je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Mais il était là les autres conférences.
Ah oui, voilà. Et là, je ne peux pas toujours être disponible quand il se passe quelque chose. Mais quand c'est possible, ben voilà.
Ben super, en tout cas, bienvenue.
Bonjour la suite.
Mmh. Bonjour.
J'ai vu Ingrid qui t'avait mis un message, il ne restait qu'une minute.
Oui, là c'est bon, je vais arrêter les séances.
Bah, je peux ouvrir avec la question de Nicole et puis comme ça il y aura le temps que les gens reviennent et posent leurs questions. Il y a combien de personnes maintenant, tu sais?
Il y avait 78, je crois.
Mais comment je sais s'ils sont tous revenus?
Ah, voilà. Ça va, je vais te le dire. Là, ça okay. Me met le nombre de secondes qui est... Enfin, ça... Dans 30 secondes, ça renvoie automatiquement tout le monde.
Ok, ouais, d'accord. Oui, c'est bon, je le vois. Okay. Alors, on va attendre que tout le monde soit revenu des groupes. Dans l'attente, vous pouvez déjà commencer à écrire dans le chat si vous avez des questions que vous avez envie de soumettre. Alors, il y en a déjà une qui a été posée, mais n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. J'essaierai de les regrouper s'il y a des thématiques qui sont similaires. Et comme ça, on aura l'occasion toutes de traiter ces différentes questions. Voilà, tout le monde est de retour. Donc, celles et ceux qui ne m'ont pas entendu peut-être, on passe à la partie des questions maintenant. Je vous invite à poser les questions via le chat et moi, je poserai les questions à Laure en direct. Du coup, ouais, Laure, je vois que tu es en train déjà de répondre par écrit, mais on peut peut-être juste soulever la question que Nicole a posée par rapport à la diversité des médias. Elle est contente d'avoir quelqu'un qui parle, qui connaît bien le paysage médiatique. Et puis, elle connaît en France plusieurs médias qui existent, qui sont quand même des médias qui ne sont pas mainstream, comme Mediapart, Thinkerview, etc. Et est-ce qu'elle connaît des médias qui feraient la même chose en Suisse? Puis, bon, je pense que la question peut... Si d'autres personnes ont des idées au niveau local, oui, il y a Benoît...
Non, mais il y avait la revue Développement Durable, je crois, non
enfin, revue Durable.
La revue Durable.
Pardon, oui. La revue Durable. Qui était super, manquait un peu d'humour, mais la revue Durable et moi a été un truc qui m'a nourrie. Je recevais ça à Libé, j'étais super contente, j'avais l'impression c'était précurseur mais ça déboîtait pas au sens de la déconne quoi.
Il y a aussi le journal Moins, donc Benoît a juste marqué Moins, point d'exclamation, mais c'est le nom d'un journal. C'est un journal d'écologie politique qui a été créé par le réseau d'objection de croissance que vous trouvez dans les kiosques et qui est de très bonne qualité pour dire que c'est 100% bénévole, fait avec un petit groupe de personnes de la région. Alors, il y a quelques questions. Une astuce à partager pour trouver d'autres personnes avec qui agir quand on n'a personne avec les mêmes interrogations dans son entourage direct.
Ouais, on crée un café collapse. On invite chez soi. Alors, je sais pas, maintenant on a les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en 2004, je faisais un papier sur le suicide. Excusez-moi, enfin, je vais faire une petite digression. Hein. Mais en 2004, je fais un papier sur le suicide par Internet. Et il se trouve qu'au Japon, beaucoup de gens se retrouvaient sur Internet pour se suicider ensemble. Bon, et ben, pourquoi pas faire la même chose pour transitionner ensemble? Et donc, c'était 2004. Hein. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, le suicide par Internet. La première chose à faire, si vous n'avez aucune personne dans votre entourage, vous allez voir au marché le producteur bio. Il doit être probablement un peu interrogé sur ces questions-là. Vous allez voir au café, vous commencez à en parler. Vous en parlez autour de vous. Et vous dites, mais est-ce que je ne lancerai pas un truc genre café collapse ou café... café émotion basse ou café transition, ce que vous voulez. Et vous prenez sur vous d'inviter chez vous des inconnus et vous voyez ce qui va surgir. L'intelligence collective est pleine de surprises. On ne va pas tout maîtriser, mais quand il n'y a personne dans l'entourage, faut changer pas d'entourage parce qu'on aime les gens qu'on aime. Mais faut ouvrir un peu le truc. Donc, les réseaux sociaux, pour ça, ils sont super.
Il y a deux suggestions aussi. Là, Ingrid qui dit on peut proposer des ateliers d'échange sur One Planet Lab. Et puis, le MOOC Transition Intérieure permet de localiser les participants dans sa région. Donc, voilà, il y a aussi des... je vous le lis comme ça, mais vous pouvez tous voir ça dans le chat. Question de Christian. Quel serait un des principaux facteurs déclencheurs d'une transition écologique actée?
Qu'est-ce qu'il entend, Christian, par transition écologique actée? Parce que...
Christian, je veux bien que tu prennes ton micro pour expliquer, effectivement, plutôt que de le passer par le chat.
Il n'y en a aucune d'actée, là.
Alors, j'entends par actée, qu'est-ce qui déclenche le changement entre être concerné, être sensibilisé, être informé sur l'écologie, sur les désastres du monde et tout, et se lever pour se mettre en marche, pour faire quelque chose. Quels sont les facteurs, les principaux facteurs, à ton avis?
Alors, le premier facteur, c'est la reliance. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien connaître son territoire, donc avoir identifié un peu les jeux d'acteurs, justement, parce que tu parles de acter, donc soyons acteurs de l'acte, de la pièce qu'on veut mettre en œuvre. Donc déjà, connaître bien les personnages. le décor, et ensuite la scène, c'est vous qui la jouez. Donc la différence, c'est quand toi tu es conscient et que tu dis waouh, je suis conscient, et tu sors de ta chambre, tu fermes la porte de ta maison et tu dis je vais rencontrer d'autres personnes conscientes. À un moment donné, quand vous êtes au moins 3, 4, 5 autour d'une table pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, une boutique de producteurs, on essaye de monter un truc fou à la Mark Twain, tu vois, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, répondre à un appel à manifestation d'intérêt, se mettre ensemble pour faire une web radio, se mettre ensemble pour créer une AMAP s'il n'y en a pas. C'est là où tu actes, c'est quand tu es à plus de 3 autour d'une table, je pense.
Merci.
Merci. Ok, une question de Noémie. Est-ce possible de développer ce qui est considéré comme émotion profonde et s'il existe des références bibliographiques sur le sujet ?
Qu'est-ce que c'est développer des émotions profondes, des émotions basses, les émotions profondes ? Je ne comprends pas. Est-ce que Noémie peut...
Je crois que tu as parlé d'émotions profondes. Je pense que c'était par rapport à la compréhension du concept.
Ah, les émotions basses. Je parlais des émotions basses qui sont évidemment profondes puisqu'elles nous emmènent très, très bas dans les abysses de notre psyché. Alors, le concept, bah, c'est très simple. Hein. Toute la littérature, Michel, tu peux en parler. Hein, c'est l'éco-psychologie. Donc, je ne sais pas, moi, je dirais que la première chose à lire, c'est un bouquin de Michel. Hein, voilà, on va faire la pub. Et puis, deuxième truc à lire, c'est Joanna Macy sur le travail qui relie. Je dirais que L'espérance en mouvement est un livre particulièrement enthousiasmant parce qu'on ne te parle que de ça, c'est-à-dire d'embrasser tes émotions basses. Il y a aussi, on peut aller faire des stages et passer dans une tente noire et composter la douleur en Angleterre. Mais franchement, pour ce concept-là, c'est tout simple. C'est toute la bibliographie liée à l'éco-psychologie. Michel, tu veux développer ?
Non, en fait, ce que je dirais par rapport à cette notion d'émotion basse ou d'émotion haute, en tout cas dans le travail qui relie, dans les approches de l'éco-psychologie, ben, bon, voilà, ces émotions, tu les as exprimées, hein, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est la colère, c'est la tristesse. Mais c'est vrai que ce qu'on découvre, en fait, c'est que toutes ces émotions dites basses, elles ont, ben, en fait, c'est des niveaux de variation, et en fait, elles ont leur envers. C'est-à-dire qu'en réalité, et tout le travail de ce compostage dont tu as aussi parlé, c'est vraiment d'arriver en fait à transformer l'énergie, à retourner l'énergie, et à se rendre compte qu'en fait, effectivement, il y a une tristesse qui peut t'amener vers le fond, mais que dans le compostage de cette énergie, peut-être tu vas tout à coup découvrir la face cachée de cette énergie qu'est l'amour, pour prendre uniquement cet exemple-là. Et donc, en fait, c'est vrai que tout le travail qui relie, c'est comment on va... C'est une espèce d'alchimie, en fait, des émotions, comment on transforme la tristesse en amour, et l'amour devient justement une émotion qui va donner... Et d'ailleurs, le mot émotion, c'est ce qui met en mouvement, et c'est pour ça, pour moi, que c'est essentiel, ce passage par l'émotion, pour agir, hein, parce que c'est vraiment ce qui met en mouvement. Et ça, après, ben, c'est parce que tu aimes la Terre, parce que tu redécouvres ça, que tu vas avoir envie d'en prendre soin. Et on pourrait prendre toutes les émotions dites basses dont on a parlé pour voir qu'en fait, elles ont leur face qu'on peut faire émerger de cette émotion-là. Donc, pour ne pas être dans une espèce de dualisme, tu vois, où il y aurait les émotions mauvaises et les émotions bonnes, c'est important de garder cette conscience un peu holistique de l'unité et qu'en réalité, c'est plutôt vraiment une alchimie où on travaille sur les énergies, quoi.
Oui, et puis comme Marie-Do le dit, c'est plutôt traverser les émotions au travers d'un atelier plutôt que de lire des choses. Parce que finalement, le fait de lire, c'est super, mais ça nous laisse encore à distance. C'est notre cerveau, enfin, c'est cette partie-là qui va travailler, alors que c'est notre partie-là qui veut travailler. Et si je me lève, c'est aussi cette partie-là qui doit travailler. On a une nécessité expérientielle de ça, et, et pour vivre ce que tu dis, c'est-à-dire que l'amour se cache derrière à peu près tout, putain, faut y aller, quoi. Sinon, on va pas le lire, ça ne servira, enfin, ça va pas suffire.
C'est ça la puissance des exercices du travail qui relie, c'est que dans cette démarche, sur plusieurs jours avec un groupe, ça peut émerger, justement. Enfin, toutes les conditions sont clés pour que ça puisse émerger. Après, ça va émerger de façon différente chez chacun. Mais ouais.
C'est magique.
Il y a un vrai outil pour ça, quoi.
Et les inconnus, le lundi, c'est des inconnus. Le vendredi soir, c'est vos guerriers de Shambhala. Vous êtes des meilleurs potes à vie. Vous vous retrouvez dans n'importe quel endroit. On s'est reconnus, on est du même brin, du même ADN, du même truc. Enfin, c'est quelque chose de très, très puissant. Je disais dans le petit sous-groupe tout à l'heure que moi, le travail qui relie m'a, je pèse mes mots, hein, sauvé la vie. Hein. Sauvé la vie. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors on dit composter la douleur, moi je dis on tire la chasse. On tire la chasse de la peur, de la douleur, du machin. C'est ça, c'est tirer la chasse. Et on ne peut pas vivre avec un caca énorme dans son ventre, dans sa tête, dans son cœur, à vie. Il faut tirer la chasse. J'invite tout le monde à y aller. Et je suis sûre qu'au laboratoire de transition intérieure, de toute façon, les gens qui sont là ne sont pas étrangers à la chose. Mais n'hésitez pas. En plus, c'est participation en conscience, donc on fait ce qu'on veut, quoi.
Merci. Question de Denise. Dans notre groupe, on se disait que les jeunes ne sont pas toujours très participatifs. Je pose la question, comment leur donner envie de se bouger? Alors moi, j'ai quand même un tout petit peu envie de réagir à ça, puisque Laure, tu n'as peut-être pas les chiffres en Suisse, mais en 2019, donc avant cette petite crise que nous sommes en train de traverser, il y a eu en Suisse 170 grèves du climat dans 60 localités avec des dizaines de milliers de jeunes, un mouvement qui a été essentiellement lancé par des gymnasiens, des collégiens et des très très jeunes. Donc, après peut-être, je ne sais pas où vous étiez, Denis, ou le groupe, vous discutiez en 2019, mais je pense qu'il y a quand même ça. En ce moment, malgré le confinement, il y a une ZAD, une zone à défendre, qui s'est créée sur la colline du Mormont, où c'est des jeunes principalement, même des très jeunes, qui sont en train d'occuper ce lieu pour protéger et défendre une zone de haute importance écologique. Maintenant, je pense que la question est tout de même pertinente, et d'ailleurs, elle rejoint une question, la question de Céline, qui est en fait comment donner envie de bouger, en général, je pense à tous les âges, parce que je ne suis pas sûre que ce soit des jeunes qui ont le plus besoin, et en ce moment, vu les situations, c'est aussi assez compliqué pour eux. Mais Céline pose la question, comment dépasser la paralysie et la peur pour agir? Donc cette question de comment donner envie et comment passer de la paralysie à l'action. Petite question.
Comment on passe de la paralysie à l'action? Quand on en a marre d'être paralysé. Je veux dire, à un moment donné, on est paralysé, on sent qu'on est paralysé, et à un moment donné, on sent que ça ne va pas d'être paralysé. Donc, ce premier petit pas de rien qui consiste à fermer la porte de sa maison, de sortir et d'aller au contact d'autres personnes qui sont tout autant paralysées que soi, c'est le démarrage de l'action, en fait. C'est la même question que posait Christian. Je pense que le passage de la paralysie à l'action, c'est le ras-le-bol de la paralysie. Il faut vraiment en avoir marre, ne plus pouvoir se regarder d'être paralysé. Et donc, on a un peu de dignité quand même. Enfin, je veux dire, on lit le bouquin de Corinne Morel-Darleux, vaut mieux couler. Attendez, excusez-moi, qui le connaît, vaut mieux.
Fouler en beauté que flotter sans grâce.
Fouler en beauté que flotter sans grâce. Donc c'est ça, et tout est sur la question de la grâce ou de la dignité de se mettre en action. C'est-à-dire sinon on ne se supporte plus soi-même. Et on a mille et une façons de pouvoir entrer en contact avec des personnes. Ne feignons pas de ne pas être hyper connecté, d'ailleurs la preuve ce soir, ne feignons pas de ne pas être en contact avec plein de possibilités. Vous avez les ressources en vous et votre ras-le-bol sera votre jauge maître de votre passage à l'acte.
Merci. Question de Pascal et Isabelle. Quand on désespère de voir les autorités ne pas agir, est-ce qu'on est contraint à la désobéissance civile? Est-ce que c'est justifié, la désobéissance civile?
Ouais, et l'éco-terrorisme aussi. Non, non. Mais non, bien sûr que, si on regarde ce que font les puissances publiques, alors du coup, on est dévasté par le fait que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, etc. Et tout à l'heure, Michel a cité la phrase de Goethe que moi j'adore, qui est « Quoi que vous croyez, quoi que vous fassiez, faites-le parce que l'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. » Alors la magie, regardez, c'est magique d'être ensemble. On va passer une bonne soirée. Enfin, je préférais qu'on soit en vraie vie, mais bon, tant pis. La grâce, c'est ce qu'on vient de dire, Corinne Morel-Darleux. On est digne dans l'instant présent et on fait ce qu'on a à faire. Mais surtout le pouvoir. Reprenons ce pouvoir dont on nous a dit qu'il n'était pas le nôtre et qu'il suffisait d'aller voter de temps en temps pour avoir une forme de pouvoir ou de succès d'années de pouvoir. Nous avons la capacité à tous les interstices de ce qu'on rêve de faire, de prendre le pouvoir. Et en plus, je le redis, les tuyaux des financements viennent se connecter à nos désirs de prise de pouvoir. Nous sommes en train de faire de la délégation de services publics. Quand on est en train de monter un tiers-lieu, on fait de la délégation de services publics. On est en train d'agir pour le commun. Dans le commun, on reprend le pouvoir. Donc moi, je regarde l'État, je regarde les infos du monde, je regarde les décisions gouvernementales et je m'en tape. Parce que ce qu'on fait, ça se connecte avec ce qu'on peut, veut, doit, même si en communication non violente, il n'y a pas de doit faire. Ah ouais, non, quand on regarde, moi, quand je regarde la déréliction politique en France, ça me donne encore plus envie d'agir et de prendre ma place en tant que citoyenne engagée, c'est-à-dire une être humaine vivante, connectée au monde, connectée à ce putain de monde. Et avec le désir, si je veux voir advenir le futur, il faut que je travaille dessus. Je ne vais pas le laisser à Emmanuel Macron ou au président de la région Bourgogne-Franche-Comté ou au maire de ma ville, qui est très sympathique par ailleurs. Mais avant 2018, il n'avait jamais lu un Pablo Servigne. Il ne savait pas ce que c'était que la notion d'effondrement. Donc, c'est super qu'il soit au courant et qu'il soit avec nous maintenant. Mais nous, le nourrissons, il n'est qu'une chambre d'écho de ce que nous sommes. Le politique n'est qu'une chambre d'écho de ce que nous sommes. Voilà.
Merci. Une question d'Yvan, est-ce que vous aimeriez partager une réflexion sur la pertinence d'articuler écologie et justice sociale?
Ouais, je trouve que c'est la méga merde et c'est le point noir et c'est l'angle mort de nos questions écologiques. C'est la méga putain de merde ça. Alors, exemple encore très concret, vous avez compris, je parle que de l'endroit où je vis, hein, là où je suis, etc. Donc à Joigny, on a un quartier qui s'appelle La Madeleine. Il y a un conseil citoyen, c'est un quartier prioritaire politique de la ville. Il y a un conseil citoyen. Et moi, je suis arrivée avec mes baskets et ma caméra et mes intentions et machin. Et elle a dit, et si on faisait des jardins partagés? Alors, jardins partagés, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans la question écologique alors que les gens, ils ont juste envie, la fin du mois, de pouvoir aller, je suis désolée de le dire, dans certaines enseignes low cost pour pouvoir fournir à leurs enfants toute la malbouffe possible et inimaginable dont les cerveaux sont déjà gavés et dopés. Donc, comment on arrive, nous? Ouais, l'angle mort pour moi, c'est ça. Parce que je viens du monde où je viens et parce qu'ils sont dans le monde où ils sont et qu'on n'arrive pas à connecter. Mais en fait, on a, comme c'est un quartier prioritaire politique de la ville, des appels à projets. Et on a, du coup, plutôt que d'arriver en frontal, on est arrivé en crabe. Vous voyez le crabe? Tac, tac, tac. Et au lieu d'arriver en disant, ouais, on va faire ça, ça et ça, on est parti de quels sont vos besoins. Et les besoins, c'était beaucoup d'informations sur les fake news, beaucoup d'informations sur la santé, notamment la santé et aussi à la santé, c'est vachement marrant, la sexualité. Finalement, on a répondu à différents appels à projets et on met au moins un pied dans la porte. Voilà. Je crois que le temps sera notre meilleur allié, mais pas le frontal. Avec moi, j'arrive, je sais, faut que tu manges bio, mec. Ouais, est-ce que je peux manger déjà? Ouais, enfin voilà, on est, voilà. Mais c'est un vrai angle mort, même s'il a déjà été nourri par ce qu'on appelle l'éducation populaire, les conférences gesticulées. Mais nous, là, on est dans un quartier où il n'y a rien de rien. Il n'y a pas une asso à la Madeleine, alors qu'il y a 3000 habitants sur 10 000 habitants, la ville de Joigny. Il y a 2500 habitants qui sont à la Madeleine. Il n'y a pas une association. Or, quand tu es dans un quartier prioritaire politique de la ville, tu es obligé de mettre un conseil citoyen en place. Et là, tu vois surgir des personnalités, des gens super intéressants qui ont envie de faire plein de trucs, accès à la culture, à l'éducation, au civisme, je ne sais pas quoi. Mais l'écologie n'est pas du tout dans le scope. Et peut-être qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on peut rentrer par les questions de sexualité, par les questions de consommation, évidemment, mais par le moindre coût. Donc, ça veut dire, évidemment, si tu as un composteur collectif à la Madeleine, vous connaissez l'histoire du déchet, la ressource qu'on n'utilise pas, on n'a pas besoin de la produire, de faire comprendre la notion de cycle. On va repartir à zéro. Moi, ça me fout les boules parce que ça fait 20 ans que je suis dedans et voilà, mais j'ai pas une âme d'éducatrice populaire, il faut le faire. Enfin, là, il faut, ouais. On n'a pas le choix. Sinon, on est vraiment des gros connards.
Je pense qu'il y a une question qui est un peu en lien avec cette question de sensibiliser des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques en tête. C'est Juliette qui demande comment sensibiliser, initier et accompagner les minorités à ce changement de cap. J'entends minorité, toute population discriminée et invisible, les personnes en grande précarité, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées isolées. Mais je suis en situation de handicap moteur et je m'interroge sur le lien entre écologie et handicap.
Ah là là. Franchement, si j'avais la solution, je serais pas là, hein. Je serais à l'ONU en train de de proposer des trucs supranationaux à tous les États. Je crois que la meilleure façon d'accompagner, c'est de rencontrer déjà et de comprendre de quoi il retourne dans les problématiques des personnes en minorité, en situation de handicap, et de comprendre, de se rencontrer vraiment. Alors, on a monté un truc ici qui s'appelle les ateliers du bon sens. Donc, pour moi, ça résume ce que écologie veut dire. C'est tout bête. Enfin, je sais pas, avec mes pommes, on a fait des compotes. C'est con, mais franchement, il y a des personnes qui sont venues qui n'avaient jamais fait une compote de pommes, qui étaient avec des trucs en plastique, à sucer des compotes de pommes. Enfin, je veux dire... ils ont compris maintenant. C'est comme le carré de poisson Findus. Vous savez, quand on comprend que c'est un poisson, en fait, voilà. C'est tout un monde qui se révolutionne. Là, on va faire un atelier dimanche sur les cosmétiques. C'est tout bête, encore une fois. C'est un peu de cire d'abeille, un peu de bicarbonate de soude, un peu d'huile essentielle. Et vas-y, que tu es autonome sur ton déo, sur ton baume. Donc, il me semble que nous avons les outils de l'autonomie, d'une forme d'autonomie, pardon, et que les personnes qui sont dans ces situations-là sont aussi dans des luttes sur la question de l'autonomie. Et ce serait vraiment dommage que ces autonomies-là ou ces quêtes d'autonomie-là ne se rencontrent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est vraiment la question de... Nous sommes un mot-clé sur la question de l'autonomie, quoi. La rencontre.
Merci. Question de Christian. Comment faire en collectif avec des divergences d'opinion? Par exemple, écologie profonde versus écologie du dimanche. Et en fait, découle une autre question. Est-ce que le colibrisme est encore d'actualité, à ton avis?
Alors pour moi, rien ne se compare et tout s'additionne. Donc s'il y a des colibris et des éléphants et des pumas et des rhinocéros, tout va bien. Bien sûr que c'est d'actualité.
Et comment faire en collectif avec les divergences d'opinion? Ça, je pense que c'est un gros sujet.
Alors, c'est ce que je disais à la fin. C'est la question de la gouvernance partagée. Et comment est-ce qu'on ne se met pas sur la gueule avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous sur le détail de deux ou trois trucs? comment est-ce qu'on gère notre propre violence, comment est-ce qu'on gère des outils d'écoute, l'écoute, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'au lieu de faire des cours que de maths, de géographie, de grammaire, on devrait aussi faire des cours de communication non violente, s'approprier les outils du radar intérieur, observation des faits, ressentis, besoins et stratégies, hein, pour la communication non violente. Quant à l'intelligence collective, la méthode des chapeaux est un truc génial dans un groupe, c'est-à-dire chacun va tour à tour être soit dans le créatif, soit dans le fait, le factuel, soit dans la critique, hyper critique, mais qui va être constructif parce que derrière il y aura quelque chose d'assez positif. Ben, on est encore, ce que je disais tout à l'heure en sous-groupe, on est encore en méga méga, méga réapprentissage de la grammaire du travail ensemble. Et cette grammaire, c'est con, parce que nous, les cours de grammaire, ça nous revient, enfin, on était en CP, CE1, CE2. Et là, maintenant, c'est la grammaire de l'émotion, c'est la grammaire du faire ensemble. Waouh ! On est tout nu, hein, on est de petites personnes, et j'espère que pour ceux qui ont des enfants, là, ils ont déjà... Il est fou dans des rails comme ça, où ce sera intuitif, finalement. Nous, ce n'est pas intuitif. Il faut qu'on déconstruise. On est pile à un pivot. Il faut qu'on déconstruise ce qu'on sait. Il faut qu'on réapprenne d'autres trucs. On est vraiment des manchots. Alors qu'en fait, la génération d'après, ça se trouve, ce sera fluide, quoi. Bah, en plus, ils sont fluides sexuellement parlant. Ils sont ou bi ou machin, ou homme assigné, machin. Enfin, je ne sais pas quoi. Ils sont super marrants. Ils sont licornes. Mais en même temps, ça se trouve, ils vont être fluides dans la façon de coopérer. Vraiment. Bah, Non, mais on est en plein apprentissage. Hein. Moi, j'en sais rien et personne n'en sait rien. Vous avez tous entendu l'université du nous. Merci Fred pour préciser ça. L'université du nous, les MOOC, les colibris. Nous, on fait des ateliers de gouvernance partagée. On est en train de rebattre toutes les cartes.
J'ai mis aussi en Suisse, il y a un petit groupe qui s'appelle les Artisans du Lien qui donne des formations sur la gouvernance partagée, parce que l'Université du Nous, ils font beaucoup d'activités. Ils ont beaucoup de ressources sur leur site, donc le site, il est aussi dans le chat. Mais par contre, ils sont surtout actifs en France. Et puis en Suisse, ben, les Artisans du Lien, ils viennent du coin, quoi. Enfin, c'est des Valaisans et Romans, enfin, et Vaudois, donc c'est des fois plus proche et peut-être plus facile à organiser.
Made in Switzerland.
C'est ça. Après, leurs outils sont très similaires à l'université du Nou. Enfin, je pense que... Et puis, comme tu dis, tout ce qui est communication non violente. À Pôle Sud, on organise un atelier bientôt en juin sur la communication bienveillante. Pour le moment, on ne l'a pas encore annoncé. On attend les dernières annonces Covid pour savoir si ce sera vraiment le cas. Parce que de la CNV sur Zoom, moi, j'y crois assez peu. Mais voilà, dès qu'il y aura les infos, normalement, le 12-13 juin, je crois, on va faire un atelier comme ça avec des outils. Question de Suad, peux-tu nous dire si tu utilises aussi l'humour dans ta pratique actuelle de construction d'un monde soutenable ?
Bah, évidemment, l'humour, c'est mon ADN. Bah, je sais pas. Non, mais moi, ouais, bien sûr. Enfin, faire rire. Alors, attention, souvent, on me dit, oui, mais attention, ça veut dire que tout ça n'est pas très sérieux. Non, non, au contraire, je pense que l'écologie est un truc super sérieux et que personne ne la prend au sérieux et que donc, je ne vais pas me gêner, on ne va pas se gêner. Pendant très longtemps, Bouge à Kyoto, c'était ça, hein, personne ne prend l'écologie au sérieux, donc on ne va pas se gêner, on va déconner, quoi. Et nous, notre truc, c'était de ringardiser le conducteur de 4x4, le gestionnaire bon père de famille qui fait des choix à la con, la riche qui ne comprend pas que les pauvres aient des problèmes. Voilà, donc on ringardisait les comportements, on va dire, carbonés ou extra-carbonés. L'humour, pour moi, c'est mon petit truc à moi. Hein. Enfin, si je ne fais pas d'humour noir, si je ne suis pas cynique et si je ne ris pas jaune pour me rendre verte, je ne vais pas bien. Voilà. Donc, oui, dans toutes les pratiques, dans mes films, dans mon rapport à mon employeur, mes employeurs, mes producteurs. Enfin, l'idée, c'est de les faire rire, quoi, de faire rire tout le monde, quoi, parce qu'à la fin, on va tous mourir. Donc, comme on dit chez les Kennedy, trois petits points. Et je sais pas, ça nous met tout nu aussi, l'humour face aux problèmes, quoi. qu'est-ce qu'on peut porter de plus ? Une pauvre petite blague.
Je crois qu'on va finir les questions sur ça, parce que c'était quand même chouette de partir sur, de finir sur l'humour. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toutes celles et ceux qui les ont posées, évidemment. Et il y a eu pas mal d'échanges sur le chat, sympa, ouais. Des références, aussi des réactions, des commentaires. Donc, je pense que allez jeter un coup d'œil.
Ah, vous connaissez la blague des deux extraterrestres qui arrivent sur Terre ? Et le monde est effondré, machin. Puis en a un, il se balade dans les ruines du monde, il s'assoit sur un trottoir, il prend sa tête dans ses mains comme ça. Il dit putain, mais quand ils ont su qu'il y avait l'effondrement, ils ont fait quoi? Et il répond bah des conférences et sur Zoom. Et des livres, évidemment, parce que moi, je remercie cet effondrement sur lequel rien n'eût été possible. 18,90, si vous l'achetez par 200 exemplaires, c'est beaucoup moins cher. Et non, mais sinon, non, mais c'est ça. Je remerciais pendant très longtemps l'industrie nucléaire sans laquelle rien n'eût été possible. Faire des films, dénoncer des choses folles, c'est les remercier aussi d'une certaine façon d'exister, parce que nous n'existerions pas. Nous ne serions pas le pendant du monde qui meurt. Si nous n'étions pas le monde qui veut naître.